Marceau le midi.
All right. 418-971-1021, s'il se passe quoi que ce soit sur la route, les amis, merci de nous en informer. Vous êtes dans Marceau le midi. Denis Gravel arrive à 14h avec toute son équipe et j'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir, 18h, avec nul autre que Richard Martineau qui sera de passage dans nos studios. Bien hâte de lui jaser, sera de passage dans nos studios. Il va être sur Zoom! Ouais, comme ça. C'est comme ça que je devrais le dire. Donc, je vais avoir le plaisir de retrouver un ancien collègue. Puis on va jaser pendant à peu près une heure. Martin Bourget qui est avec nous, notre chroniqueur chasse-pêche, président du groupe Aventure Chasse-Pêche. Salut, mon ami.
Salut, vous deux. Comment ça va?
Ça va très bien. On parle d'un sujet particulier. On va parler de déprédation, mais juste avant. Tu sais, moi, là, j'adore me promener dans le bois. Puis quand j'entends parler des fameuses tiques, là, ça m'énerve à chaque fois. Puis là, toi, tu nous apprends qu'il y a des tiques d'hiver aussi qui existent, qui peuvent s'accrocher sur toi.
Ouais, on pensait qu'ils gelaient. Ça finissait avec l'hiver, mais non.
Comme les araignées, mettons. T'en vois pas l'hiver dehors, là.
Mais différencie deux choses. La tique dont tu as peur, qui est celle qui donne la maladie de Lyme, c'est la tique à pattes noires. C'est celle que tu as ramassée dans les herbes en te promenant sur le bas de ton pantalon puis qui va, si te pique, potentiellement te donner la maladie de Lyme.
Ouais.
La tique hivernale...
Mais je sais que ça va te surprendre, Martin, mais je n'ai jamais pris la peine de regarder les pattes d'une tique.
Bien, tu sais... La tique dont on parle là, outre l'identification, parce que là, c'est moins évident, puis je pourrais te donner un cours éventuellement. Là. La tique d'hiver, là, Dermacentaur, là, son premier nom, là, c'est une tique complètement différente. Elle est justement collée sur les orignaux parce qu'elle va continuer à pomper du sang pendant l'hiver et elle va être collée sur la chaleur de l'orignal aussi, ce qui lui permet de survivre. Cette tique-là est autant, sinon plus problématique parce que présentement, elle est en train de décimer les populations d'orignaux. Les études là, sur le terrain, il faut comprendre que cette tique-là, elle se colle au début de l'hiver, ces orignaux. Les orignaux, en période hivernale, ils ont, comme n'importe quel animal qui hiverne, stocké le plus d'énergie possible, puis ils vont ravager. Hein. Ils vont se regrouper dans des endroits dans le bois où est-ce qu'il y a de la brindille échiquée à proximité, où est-ce qu'ils sont à l'écart des loups, des coyotes, des ci, des ça. Puis ils vont se coller ensemble, garder un peu leur chaleur. La minute qu'ils ont à sortir de leur ravage pour aller s'alimenter, c'est déjà une dépense énergétique qui peut être mortelle. Si tu rajoutes à ça un parasite comme la tique hivernale qui pompe du sang tout l'hiver, dans certains ravages, c'est jusqu'à 90 % de taux de mortalité chez les jeunes veaux orignaux qui ne passeront pas l'hiver à cause de la surreprésentation des tiques. Puis là, ben avec les hivers cléments qu'on a dans les derniers temps, ben ça devient de pire en pire comme problématique puisque la tique ne gèle pas, ne meurt pas. Elle reste sur l'orignal et continue à s'abreuver de son sang pendant tout l'hiver. Ça crée beaucoup de mortalité. Fait que si tu mets ça, en plus de toutes les autres problématiques qui viennent perturber le milieu de l'orignal, on se ramasse avec un cristi de problème puis on est à analyser de quelle façon on pourrait... Par exemple, ajouter des choses aux stations minérales dans le temps de la chasse pour aider aux animaux à se débarrasser de ces parasites-là.
Mais est-ce que c'est la tique, cette tique-là là, qui est collée sur l'orignal, ça peut-tu s'accrocher sur une branche puis tomber sur Pascal, mettons, quand elle se promène dans le bois?
Oui, définitivement. Définitivement, ça le pourrait. Sur le plan physique, ça le pourrait. C'est pas quelque chose qui nous inquiète énormément au niveau de cette tique-là en particulier, malgré que... C'est fort probable, hein, parce qu'il y a des animaux sur lesquels ils ont dénombré jusqu'à 80 000 tiques sur un orignal. 80 000 tiques sur un orignal.
Je ne sais pas si les orignaux ils ont la même tolérance aux mouches que moi, là, mais moi, quand il y en a une dans la maison, elle me gosse. Imagine-toi 80 000 tiques sur toi.
Regarde, c'est épouvantable. T'sais, le secteur du New Hampshire, entre autres, est excessivement affecté. Puis on commence à le voir beaucoup, les gars qui chassent la bonderie qui est entre le Canada et les États-Unis. Là, c'est très, très, très à la mode de faire ça. Ils vont voir énormément de tiques dans ce coin-là. Mais là, la tique, elle se répand énormément. Puis le facteur qui est généralement la limite, qui est le froid, le gel, il est de moins en moins présent d'un hiver à l'autre. Donc, on assiste pour un paquet de facteurs, à une diminution de notre population d'orignal. Mais on assiste aussi à une augmentation des facteurs qui viennent rentrer dedans, dont la tique qui est incroyablement problématique et le contrôle de la prédation qui ne se fait plus comme il se faisait dans le temps. Fait que notre orignal puis notre chevreuil, présentement, là, il est facile de tout bord, de tout côté. Par contre, l'autre tique dont tu parlais, on se fera vraiment un topo carrément sur la tique à pattes noires, là, qui est celle qui transmet la maladie de Lyme, sur les façons aussi de correctement se protéger de ça quand on va en forêt. Parce que là, elle est rendue tellement présente, la tique à pattes noires, qu'on parle plus juste des chasseurs et des pêcheurs. Là. Les kids qui s'en vont dans le champ, l'autre bord, pour se faire un tipi dans le bois, sont exposés. très exposé.
On avait été en voyage étudiant dans le temps, puis il y avait une des filles qui était avec nous qui s'était promenée dans un champ, puis elle avait une tique dans une cuisse, puis là, il y avait quelqu'un qui était comme le guide accompagnateur qui avait déjà entendu parler qu'il fallait que tu chauffes les fesses de la tique, Pascal, avec un lighter pour que la tique décide de sortir parce qu'elle se faisait chauffer le cul.
OK, clairement, on n'était pas au courant des pratiques actuelles avec le petit bâton qui tourne.
Je retourne encore à mes 20 ans, puis je ris encore.
Oui, mais étais-tu brûlée? C'est sûr que la fille était brûlée. Je veux dire, elle essaie de contrôler une flamme de lighter.
C'est parce que ça, on dirait que ça rentre sa tête. C'est-tu ça, hein, Martin? Ça rentre sa tête directement dans le port de la peau?
Oui.
Puis mais là, ton guide il s'était trompé entre, entre la recette de smoke meat et la recette pour les tiques. Là.
Mais qu'est-ce que tu fais quand tu vois que la tique, elle veut rentrer dans ton bras? Tu fais quoi? Tu prends une pince à cils, t'as sort?
Tout le monde aujourd'hui devrait passer en pharmacie ou en magasin de chasse et pêche, acheter le petit kit qui est fait pour ça, avec la petite fourchette qui permet de sortir la tique.
Moi, je l'ai mis dans tous les bonnes Noël des gens autour de moi depuis les dernières années. Là. Ça coûte 4$. C'est
pour
fait.
Pour vrai, hein? Si ton monde fond du plein air, là, c'est essentiel comme cadeau dans le bon Noël. Tu as même le petit pot pour mettre la tique que tu as récupérée pour l'amener à l'hôpital pour qu'il puisse faire une culture sur la petite tique pour voir si elle a la maladie de Lyme. Donc, si au départ, on rentre en traitement préventif, c'est quand même rendu un enjeu majeur.
Puis c'est triste aussi pour les animaux. T'sais, on parle de ceux qui se trouvent dans la forêt, mais moi, j'ai connu quelqu'un qui a deux chiens. Puis un des deux chiens en forêt au Québec là, s'est promené. Tique. Enlève la tique, la fait analyser, infectée, maladie de Lyme. Le chien, tu sais, ses antibiotiques, ça coûte extrêmement cher, puis clairement, sa qualité de vie a diminué depuis, puis il est à risque de mourir dans les prochaines années, là.
Bien, plusieurs vont choisir carrément l'euthanasie dans le cas de maladies aussi compromettantes que ça. Autrement, c'est un peu de l'égoïsme que de garder un animal qui est hyper souffrant pour notre beau bonheur puis le bourrer de médicaments. Ça, il y a différentes écoles de pensée là-dessus, on y reviendra, mais effectivement, il faut comprendre, puis on va parler de déprédation un peu, là, il faut comprendre que la grande faune qui est dehors, de plus en plus, se rapproche des cercles urbains parce qu'on les a confinés. Puis dans le cas, de l'orignal, puis du chevreuil avec la tique à patte noire, c'est un point. Mais si on regarde nos canidés, notre loup, notre coyote, puis nos renards, ils peuvent être porteurs de la gale, ils peuvent être porteurs du dispenser canin, ils peuvent être porteurs d'une panoplie de problématiques qui peut se transmettre à nos chiens s'ils les côtoient ou s'ils vont directement en arrière d'eux autres et ramasser des liquides biologiques X, Y, Z sur les branches de la bave, de l'urine, du quoi que ce soit. Ça peut être excessivement dangereux. Tu sais, le contrôle de la prédation, là, il se fait parce que les trois principales causes de mort chez l'orignal puis le chevreuil, c'est le froid, la prédation, soit par le loup ou encore par le coyote, puis la maladie, puis la nourriture. La chasse vient bien loin en arrière.
Le loup, je peux comprendre qu'il est capable d'aller chercher un chevreuil ou un orignal, mais le coyote, il me semble, il est petit pour faire ça. Ah, ouais.
Écoute, il y a deux nuits encore, on s'est réveillé ici en sursaut parce que les coyotes couraient après un chevreuil alentour de la maison ici. La carcasse, je t'annonce qu'elle est sur le bord de la rivière en bas.
Mais quel genre de vie tu mènes? T'habites au pôle Nord, quoi?
Non. Les biologistes là, vont parler de. Un loup, là, va. Un coyote peut mettre à terre par coyote un chevreuil facilement. Là, on va dire par mois, là, pour ne pas trop être alormiste, parce que dans certains secteurs, c'est par semaine. Fait qu'imagine ici, là, il y a 4 meutes de coyotes alentour d'environ 25-30 coyotes par meute. Le coyote, c'est la cause de mort numéro 1 avec le froid chez le cerf de Virginie. C'est un prédateur qui est très efficace. C'est une des raisons pour lesquelles on le chasse, on le trappe. Puis on le fait aussi parce que dans certains secteurs, ils sont bourrés de gale. Ils ont la fameuse gale qui se transmet à nos animaux de compagnie. Donc, on va le contrôler pour limiter l'expansion de cette gale-là. Et pour limiter, parce qu'il y a une surreproduction et une surpopulation, entre autres dans le coyote, dans différents secteurs. C'est rendu... Chez nous, ici, les coyotes sont dans la cour. La nuit, ils sont dans la cour, alentour de la maison. Là.
OK. Et comment ils y trouvent, les chevreuils, puis les orignaux, les coyotes? Est-ce que ça arrive que parfois, c'est l'être humain qui monte la piste? Là, quand les êtres humains vont visiter les ravages de chevreuils, ça leur fait bien plaisir, vont nourrir les chevreuils avec les enfants et tout ça, ça fait des belles photos, mais c'est parce que tu viens de taper à trail pour le coyote qui suit en arrière.
Surtout si tu es en motoneige, tu viens de taper à trail directement, puis dis-toi que ton loup, l'été, il mange du castor. L'hiver, il n'y a pas de castor. Il cherche d'autres sources de nourriture. Si tu y donnes des indices ou que tu pousses les bêtes à se déplacer dans leur ravage, ça va générer des odeurs, ça va générer des traces. Les loups vont les trouver assurément. C'est des machines, cette histoire-là. Beaucoup plus que le coyote. Puis là, bien dernièrement, on a des nouveaux hybrides qui sont les coyloups, les coyotes et les loups qui s'hybrident ensemble. Fait que ça fait des machines qui ont un peu l'innocence du coyote, mais avec la puissance du loup. Fait qu'ils ne sont pas peureux, ils approchent plus vite, puis ils sacquent à terre plus rapidement. Ça fait des dégâts qui sont assez monumentaux, d'où l'importance du contrôle de ces populations-là. De toute façon, ils sont tellement... On veut pas annihiler le loup et le coyote de la surface de la planète, mais ils sont rendus tellement nombreux que la contamination croisée des différentes maladies que porte le coyote, la rage, le dispenser, la gale, si on ne fait pas de contrôle animalier là-dedans, ouais, on va avoir raison de la population totale. Puis on en a besoin d'en avoir une certaine quantité parce que ce sont les vidangeurs alentour de nous autres.
En terminant, Martin, c'est quoi les règlements pour faire de la déprédation, mettons, pour tirer un loup ou bien pour tirer un coyote?
Très simple, permis de petit gibier, on va voir sur le site du ministère pour voir les dates de chasse légales dans nos zones. Le coyote, idéalement, on peut le chasser le septembre, octobre, novembre, mais idéalement, le coyote, on le chasse quand il a faim, en hiver, carrément. C'est plus facile de se cacher, c'est plus facile de l'appâter. Mais c'est un permis de petit gibier, votre permis de possession-acquisition pour l'arme que vous avez entre les mains. Et puis vérifier la réglementation zone date, mais ça dure presque toute l'année.
On vous rejoint comment si on veut en savoir plus sur la chasse et la pêche, Martin?
acpnation.com, c'est le principal site pour nous rejoindre sur nos différents Facebook aussi. Puis, ben, dans nos lives, ce soir, on est en live, entre autres, avec un retraité des Forces canadiennes, Michael Desrosiers, qui est un professionnel des armes à feu, qui nous parle comment entretenir, remiser, réparer nos armes à feu ce soir en live à 20h là, sur l'ensemble de nos plateformes. Mais connectez-vous surtout sur le acpnation.com, cliquez sur l'onglet live. C'est la plus belle façon de nous écouter sans être coupé, parce que de la minute qu'on montre une arme à feu ou qu'on parle d'une arme à feu, il nous coupe sur Facebook puis partout. Sur le acpnation.com, c'est un stream privé, fait qu'on est là tout le temps.
Merci Martin!
Allez, merci à vous autres!
Salut! L'excellent Martin Bourget, à qui on a le plaisir de jaser à chaque semaine. Pascal, c'est maintenant le temps de parler de l'ultime combat des tounes. On sait qu'il y a beaucoup d'auditeurs sur les ondes de boulevard qui ont soif des tounes. Donc, c'est le temps de choisir votre chanson rock de l'année dans le cadre de l'ultime combat des tounes, qui est présenté par Chaloux. Chaque jour en semaine, il y a deux chansons différentes qui s'affrontent pour la première place. Et c'est le moment de donner votre avis sur les nouveautés rock qui tournent depuis janvier et d'aller voter pour votre toune préférée sur le compte Instagram de Boulevard 102. Aujourd'hui, il y a une des tunes qui s'appelle Falling in Reverse. On parlait de Jelly Roll hier, qui est à peu près tout le temps numéro 1 partout. La tune, c'est All My Life. On va l'entendre dans les prochaines secondes. Et de ce que je sais, c'est Claude Toon. Elle est plus à présenter, là. C'est The Emptiness Machine de Linkin Park. À mes yeux, à moi, je pense que c'est elle qui va être la plus populaire.
Extrêmement en avance déjà sur nos réseaux sociaux.
On va essayer d'influencer votre vote en vous mettant Falling in Reverse sur Boulevard dans les prochaines secondes.
L'ultime!